éléments de réponse. Et puis, quels moyens le yoga propose pour atteindre son ou ses buts? Là aussi, si on regarde les textes fondateurs, on va avoir des éléments de réponse. Donc, c'est autour de ces trois questions que je vais vous amener à ma suite. Et alors, les textes fondateurs, qu'est-ce que ça veut dire? Ce sont les premiers textes qui parlent du yoga. Alors, il y en a là aussi pléthore. Il a fallu donc que je sélectionne ceux qui me paraissaient les plus intéressants à interroger. Alors, vous allez avoir droit à la Katha Upanishad. Je vais vous expliquer un petit peu de qu'est-ce que c'est que ce texte. C'est le plus vieux texte que nous allons interroger. C'est le premier qui parle du yoga d'une façon explicite. Il y a d'autres textes avant qui font des allusions, mais là, il y a vraiment un passage qui explicite le yoga, donc tout à fait intéressant. Ensuite, il y a un texte un peu plus récent, mais c'est très relatif, hein, puisque la Katha Upanishad, en gros, c'est à moins 600 avant notre ère, alors que la Bhagavad Gita, ça tourne aux alentours de moins 400. J'ai arrondi, j'ai fait des chiffres ronds, voilà. Donc là aussi, c'est un texte très célèbre. Je pense que la plupart d'entre vous ont au moins déjà entendu le nom, mais vous ne savez peut-être pas combien ce texte est fondateur pour le yoga, et on va l'entrevoir ou le découvrir un peu ensemble. Et puis enfin, il y a un troisième texte que je ne peux pas ne pas convoquer, c'est le fameux Yoga Sutra de Patanjali. Alors, pour ceux qui n'en ont jamais entendu parler, j'en dirai plus tout à l'heure, mais c'est le texte de référence pour ce qui concerne la philosophie du yoga. Donc en gros, moins 200 ans avant notre ère. Donc entre le premier texte et le dernier, il y a 400 ans d'espace. Ça veut dire que les mentalités ont changé, les concepts se sont précisés. Donc évidemment, il y a plus de détails dans le Yoga Sutra que dans la Katha Upanishad. Mais comme vous allez le voir, cet Upanishad a vraiment un charme et un intérêt tout à fait particulier. Alors, avant d'entrer directement dans le texte de la Katha Upanishad, je vais vous dire deux mots sur ce que sont les Upanishads, puisque vous n'êtes pas tous censés être au courant. De quoi s'agit-il? Eh bien, les Upanishads, ce sont des textes sacrés de la tradition hindoue. Donc, comme ce sont des textes sacrés, ils sont contenus dans ce qu'on appelle le Veda. Le Veda est à l'Inde ce que la Bible est à la civilisation judéo-chrétienne, le livre saint de référence. Et on peut dire que à l'intérieur du Veda, les Upanishads jouent le même rôle, c'est une analogie, hein, faut pas le prendre au pied de la lettre, mais jouent le même rôle que les évangiles dans la Bible. Si vous avez un tout petit peu de culture biblique, vous savez que les évangiles se trouvent tout à la fin de la Bible. Avant, il y a ce qu'on appelle l'Ancien Testament. Et d'un point de vue quantitatif, les évangiles, c'est tout petit. Je ne saurais pas vous dire si ça fait un dixième, un vingtième ou un cinquantième de la Bible, mais c'est de cet ordre-là. C'est tout petit. D'accord ? Et pourtant, du point de vue chrétien, ce sont les textes les plus riches, les plus denses, les plus intéressants à étudier. Si on veut étudier le christianisme, il faut d'abord étudier les évangiles. Et puis après, si on veut approfondir, on peut s'intéresser à l'Ancien Testament. Mais quand on veut étudier la philosophie indienne et la sagesse indienne, c'est la même chose. Les Upanishads, ce sont des petits textes qui se situent à la fin des Védas, qui d'un point de vue quantitatif sont ridiculement courts par rapport à l'ensemble des textes védiques, mais qui, du point de vue philosophique et spirituel, sont la quintessence de ces textes. C'est pour ça, donc, que je fais cette comparaison qui est très approximative, mais qui permet d'avoir une espèce de cadre ou un repère. Alors, il y en a une dizaine d'Upanishads majeures. On les appelle les Upanishads majeures parce qu'elles sont antérieures à notre ère. Ensuite, la tradition védique est très riche et donc les Upanishads ont continué à s'écrire au fil des siècles. Maintenant, il y en a 200, 250. Mais il y en a 10 qui sont considérés comme majeurs. Et en fait, quand on étudie ces 10-là, on a vraiment la quintessence de la philosophie indienne. Alors, pourquoi, sur ces 10, pourquoi prendre la Katha Upanishad ? Eh bien, parce que, comme je vous l'ai dit en introduction, c'est la première qui parle de façon explicite du yoga, et donc, elle est intéressante à consulter ou à convoquer de ce point de vue. Alors, c'est une Upanishad assez étonnante parce qu'elle se présente sous la forme d'un conte. Et pour comprendre ce conte et l'apprécier, eh bien, il y a plusieurs notions qu'il faut connaître. La première, c'est la représentation du monde qu'on se fait en Inde il y a 2600 ans. Vous imaginez bien, ce n'est pas exactement la même représentation du monde que la nôtre. Alors cette représentation, elle a ceci de particulier, qu'elle considère qu'il y a trois plans dans l'univers. Il y a le plan matériel, celui sur lequel nous nous trouvons là actuellement, et il y a donc des êtres incarnés, les hommes et les animaux, les plantes. Mais il y a un autre plan plus subtil qui correspond le mieux à ce que dans la tradition chrétienne un petit peu ancienne, on appelle les anges et les démons. Les démons, ce sont des anges qui ont déchu. Hein, donc c'est des êtres subtils, mais qui peuplent un univers invisible. D'accord ? Donc dans la perspective indienne, toutes les grandes fonctions de l'univers visible sont dirigées par ce qu'on appelle en sanskrit des devas. Des devas, alors on traduit par déité, d'accord ? Ou par ange, c'est pas mal parce que ça... Voilà. Donc, par exemple, eh bien, il y a une déité qui préside au fonctionnement du soleil, d'accord ? Ça s'appelle Surya. Donc, ceux qui font du yoga, Surya Namaskar, la salutation au soleil, c'est parce qu'on salue la déité qui fait fonctionner le soleil. On ne salue pas la boule de feu, on salue la présence qui est derrière le soleil. Chandra, c'est la déité qui fait fonctionner la lune, et ainsi de suite. Parmi toutes ces déités, il y en a une, bien évidemment, qui a pour fonction de réguler la mort. C'est l'ange de la mort, et il s'appelle Yama. Donc, quand quelqu'un meurt, eh bien, hop, naturellement, il se retrouve chez Yama, la déité qui vient réguler le nombre de vivants et le nombre de morts, et qui dit, non, toi, tu es sur mon carnet, hop, tu passes à la trappe, d'accord ? Voilà. Alors, je vous ai dit trois univers parce que derrière cet univers subtil peuplé d'anges et de démons et qui font fonctionner l'univers, eh bien, il y a un principe universel, Dieu, qu'en Inde on appelle Ishvara, et qui, lui, est d'un plan supérieur, d'accord ? La grande différence, c'est que les déités, elles sont elles-mêmes mortelles, mais pas à la même échelle que nous. Les déités, elles vivent très 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 longtemps, mais elles ont aussi une fin. Leur fin, c'est lors de la fin de l'univers, puisque du point de vue hindou, l'univers est un processus cyclique. À certains moments, il n'y a rien du tout, pas d'univers. Puis il y a un univers qui apparaît, dans cet univers, donc il y a les dieux et les démons, les hommes et les animaux, etc. Puis, à la fin de cet univers, tout ça est résorbé dans le principe. Voilà. Donc, les dieux aussi ont ce souci de savoir mais qu'est-ce qui va nous arriver à la fin des temps. Ce n'est pas qu'une question que les hommes se posent. Voilà. Donc, ça, c'est pour vous situer le contexte de cette Upanishad. Maintenant, une autre notion dont il faut avoir entendu parler, et celle-là, elle est au contraire très moderne, c'est la notion de NDE, Near Death Experience, en anglais, ou en français, EMI, expérience de mort imminente. Alors, est-ce que tout le monde a déjà un peu entendu parler de ce genre de phénomène, ou est-ce que Pour certains, c'est inconnu. Non, il y en a qui n'ont pas entendu parler. Donc j'en dis brièvement deux mots. Donc depuis les années 80, il y a des scientifiques, et ça a commencé par un cardiologue qui s'appelait Raymond Moody, qui se sont aperçus que dans certains cas d'arrêt des fonctions vitales, donc de mort apparente, donc arrêt cardiaque, coma profond, etc., eh bien, les personnes, quand elles ressortent de ces états de mort apparente, dans certains cas, elles racontent qu'elles n'ont pas du tout perdu conscience, mais qu'elles se sont retrouvées au contraire basculées dans un plan de conscience beaucoup plus large, à partir duquel elles voyaient, par exemple, leur corps sur la table d'opération, quand c'est des gens qui ont vécu un moment d'arrêt cardiaque et de mort apparente alors qu'ils étaient en train d'être opérés, ou dans des situations d'urgence, quelqu'un qui a fait une chute en montagne, qui est tombé, qui s'est cru mort, mais au moment où il tombe, il se passe plusieurs secondes, et pendant les secondes de sa chute, au lieu de perdre conscience ou d'être complètement affolé par l'expérience, il y a un truc qui se déclenche et il se retrouve dans un espace de conscience très vaste où il voit sa vie défiler devant lui et où il se met à comprendre plein de choses, le sens de sa vie, les choses qu'il a faites en positif, en négatif, bref, voilà. Alors donc, jusqu'aux années 80, il y avait des témoignages de ce type tout au long de l'histoire des hommes. Les premiers témoignages qu'on trouve, on les trouve chez Platon. Platon raconte une histoire comme ça, d'un soldat qu'on a cru mort et qui, au bout de 3 jours, dit « je ne suis pas mort du tout ». Et puis, non seulement je ne suis pas mort, mais j'ai des choses très importantes à vous dire sur ce que j'ai vécu pendant ces 3 jours. Voilà, donc c'est ça, une expérience de mort imminente ou une near-death expérience. Donc, jusqu'aux années 80, eh bien, tout le monde pensait que c'était du mythe. Et que, voilà, il y avait des gens qui racontaient ça, mais c'était, voilà. Et depuis les années 80, et entre autres depuis les travaux du célèbre Raymond Moody, on s'est rendu compte qu'en fait, ça arrive à un nombre relativement significatif de personnes quand elles sont comme ça dans un entre-deux, entre la vie et la mort. Alors, vous allez me dire, oui, mais ils ne sont pas morts, puisqu'après, ils revivent. Bon, donc évidemment, il y a tout un débat philosophique pour savoir quel statut accorder à ces témoignages. Mais toujours est-il que, si vous êtes intéressé par le sujet, il y a maintenant des livres très bien faits, y compris par des scientifiques. Il y a des scientifiques qui ont pris ça comme sujet de recherche. Hein. Donc c'est tout à fait sérieux comme méthodologie, etc. Et qui attestent de la réalité du phénomène. Qu'est-ce que ça veut dire philosophiquement? Est-ce que ça prouve qu'on vit indéfiniment après la mort, ou est-ce que c'est juste une expérience brève de... Voilà. Enfin, il y a quand même quelques témoignages qui s'étendent sur plusieurs jours. Hein. En particulier, celui qui est le plus fort dans ce domaine, c'est celui d'un neurologue américain qui s'appelle Eben Alexander. Si vous voulez lire des choses qui décoiffent un peu, son livre s'appelle « La preuve du paradis ». Alors, ça paraît comme ça, un titre pas du tout scientifique, mais en fait, il était scientifique avant. Il raconte son expérience en l'analysant en termes scientifiques. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on est obligé de se poser des questions après avoir lu ça. Voilà. Alors donc, pour comprendre la Katha Upanishad, il faut ces deux clés qui sont à 2600 ans d'intervalle. La clé, la première, celle de l'idée qu'il y a un monde subtil qui dédouble le monde que nous connaissons, et puis la clé selon laquelle le genre d'expérience qui va nous être décrite dans la Katha Upanishad, même si elle est décrite d'une façon allégorique, parce qu'elle est écrite dans le langage qu'on utilisait il y a 2600 ans, il est bien possible, en tout cas moi c'est ma conviction, qu'elle soit assise sur une expérience réelle. Ce qui nous est raconté est fondé sur une expérience réelle, c'est-à-dire qu'il y a vraiment eu un garçon, alors est-ce qu'il s'appelait Nachiketa, est-ce qu'il avait 10 ou 11 ans, j'en sais rien, mais il y a quelqu'un qui a fait cette expérience et qui en a témoigné. Alors je vous raconte l'Upanishad. Donc ce garçon de bonne famille a un père qui est assez hypocrite et qui un jour se dit, c'est pas tout ça, mais si je veux avoir une vie prospère, eh bien, il faut que je fasse des offrandes au temple et aux prêtres. Et puis comme ça, voilà, il y a des chances pour que ça me donne des bons points pour l'au-delà et j'aurai plus de chances d'aller au paradis. Voilà. Alors, mais il n'est pas très sincère dans sa foi et voilà, il se dit bon, bah, je vais offrir des têtes de bétail parce qu'à l'époque, c'est beaucoup des gens qui sont des éleveurs. Hein. Mais ça l'embête quand même de faire un don trop important. Donc, il sélectionne ses bêtes et toutes celles qui sont malades, vieilles ou stériles, il les met de côté et il part vers la ville pour offrir ça. Et il demande à son fils de l'accompagner pour faire avancer le petit troupeau, là. Et son fils, lui, qui est, comment dire, jeune, naïf et sincère, comme on peut l'être à la fin de l'enfance, hein, pas encore tout à fait l'adolescence, et on croit en ce qu'on nous a raconté. Donc lui, il a la foi qu'il y a un au-delà et qu'il y a des... Il y a un dieu, etc. Et il dit, mais c'est pas possible, là. Qu'est-ce qu'il fait, là, papa? Il va offrir au dieu les bêtes les plus malades, qui n'ont aucune valeur. Donc, c'est pas une vraie offrande. Donc, il va voir son père et puis il lui dit, mais alors, papa, là, je comprends pas, là, qu'est-ce que tu vas faire? Alors, son père, parce qu'il y a aussi du monde avec eux, il doit y avoir un ou deux accompagnateurs, il lui dit, tu la fermes, parce qu'il n'a pas envie que tout le monde se rende compte de ce qu'il est en train de faire. Alors bon, le fils se renfrogne un peu, mais ils habitent assez loin, donc c'est un voyage un peu long, comme il y a en Orient. Donc au bout d'un moment, il revient à la charge, le fils. Il dit, mais papa, mais je comprends pas, c'est pas comme ça que tu nous as élevés. Voilà. Alors le père, il dit, écoute, tu la fermes, parce que sinon, je te fous une correction. Bon, alors hop, voilà. Mais quand même, ça le démange, parce que lui, il est vraiment sincère. Il se dit, c'est pas possible que papa fasse un truc comme ça. Donc, il revient à la charge une troisième fois. Alors là, le père, il dit, je t'avais prévenu. Il prend son bâton et paf, il lui en fout un coup derrière les oreilles. Pas de chance. Le coup est mal porté et l'enfant tombe dans le coma. C'était pas la volonté du père. Il voulait juste... C'est les méthodes éducatives de l'ancien temps, hein, de 2600 ans, où on n'hésite pas à jouer du bâton pour se faire comprendre. Mais là, bah, ça y est, il est dans le coma. Enfin, non, il est mort. Il ne respire plus. Et voilà. Donc, panique à bord et tout ça. On essaye de le ranimer. Voilà. Rien n'y fait. Et ça dure pendant 3 jours. Alors, sauf que... Alors, bah, comme il est en passe d'être mourant, donc il se retrouve dans l'intermonde, ce que les Tibétains appellent le bardo, entre deux états. Et là, normalement, eh bien, il doit être accueilli par Yama, qui lui décide de son sort, où est-ce qu'il va, en enfer, au paradis, etc. Bon, si j'ai du temps, je vous dirai un petit peu tout à l'heure comment ça fonctionne. Mais ça fonctionne en fait assez semblablement à ce que nous connaissons dans le christianisme. La seule différence ou la différence majeure, c'est que les états paradisiaques ou infernaux ne sont pas éternels. On y reste le temps d'épuiser un certain nombre de choses, d'impressions, et puis après, quand c'est épuisé, pouf, on se réincarne. Voilà, donc c'est ça en gros le schéma. Donc... il se retrouve chez Yama. Donc Yama, c'est l'ange de la mort ou la déité de la mort. Mais il se trouve que Yama avait fort à faire parce qu'il y avait une épidémie à droite, il y avait une guerre à gauche, il y avait etc. Donc Yama, ça fait 3 jours qu'il n'arrive pas à traiter tous les morts qui se présentent. Du coup, il n'est pas chez lui. Alors ben, le pauvre Nachiketa, il l'attend là, entre la vie et la mort, sur la porte de Yama. Donc vous voyez combien c'est symbolique des expériences de NDE. Et là-dessus, au bout de 3 jours, Yama arrive, il rentre chez lui, et il s'aperçoit qu'il y a ce jeune garçon qui est assis sur le seuil de la porte. Et du point de vue hindou, c'est très très incorrect de ne pas honorer un hôte, de le recevoir, de lui donner à manger, de lui donner à boire. Soit il aurait dû le passer de vie à trépas dès son arrivée, soit s'il le faisait attendre, il fallait le faire attendre dignement. Voilà. Alors Yama est confus, il se dit, mais ça c'est mauvais pour mon karma. Parce que là, j'ai fait une faute, donc un jour, peut-être je vais la payer, cette faute. Donc il dit, Nachiketa, le petit garçon, il s'appelle Nachiketa, pour me faire pardonner, puisque je t'ai fait attendre 3 jours, je te donne 3 vœux. Et je vais accomplir ces vœux pour toi. Alors le petit garçon, ça lui plaît bien. Le jeune garçon, voilà, parce que vous allez voir, il est quand même assez mature pour un enfant de 10-11 ans. Alors donc, il est donc dans un plan subtil et il voit ce qui se passe sur Terre. Et il voit son père qui est effondré, sa mère, sa famille, on est en train de préparer les obsèques et tout ça. Tout le monde pleure. Alors il dit, écoute, puisque tu me donnes 3 vœux, le premier, c'est que tu me ramènes. Parce que voilà, ils sont tellement malheureux. Alors Yama dit, d'accord, donc t'es bon pour ce coup-ci, ça ne sera pas encore ton tour, tu vas être réanimé. Alors, qu'est-ce que tu veux comme deuxième vœu? Alors, il dit, écoute, voilà, moi, il y a quelque chose que j'aimerais savoir. Là, mon père, il s'apprêtait à faire une offrande, faire des prières, etc. Mais est-ce qu'avec une offrande de ce type, on peut s'attirer vraiment les grâces des divinités, et est-ce qu'on peut s'assurer un avenir post-mortem positif, un paradis quelconque? Alors là, évidemment, Yama dit, bien sûr que non, là, ton père, là, il a tout faux. Ah, écoute, à ce moment-là, comme deuxième vœu, je veux que tu m'apprennes comment faire un rituel pour vraiment honorer les dieux. Alors évidemment, Yama, il dit, d'accord. Et il lui enseigne un rituel très élaboré, dans quel état il faut être intérieurement, qu'est-ce qu'il faut offrir, etc., qu'il va donc pouvoir ramener, puisqu'il va être ramené dans son corps, et il va ensuite pouvoir enseigner à son père, et puis petit à petit à la communauté, comment en fait il faut honorer correctement les dieux. Voilà. Et alors, qu'est-ce que tu veux comme troisième vœu ? Et alors là, c'est là où on voit que le petit garçon n'est pas un petit garçon. Et écoute, comme troisième vœu, il y a une question que je me pose. Là, j'allais mourir, donc j'allais perdre conscience de ma vie actuelle. Alors peut-être j'allais être dans un paradis ou dans un enfer et tout ça, puis peut-être j'allais être réincarné. Mais de toute façon, quand on revient sur Terre, on n'a pas conscience des autres existences. Donc c'est comme si on n'en avait pas. C'est comme si on était détruit. Donc ce que je voudrais savoir, c'est est-ce qu'il y a quelque chose qui subsiste à ce cycle-là de la vie et de la mort, qu'en Inde on appelle le samsara. Alors là, Yama dit, il botte en touche en fait, Yama. Il dit, écoute, ça c'est une question très difficile, t'es jeune, c'est pas encore là l'heure de te poser cette question. Quand tu seras vieux, tu pourras essayer de trouver quelqu'un qui t'aidera à y répondre. Mais pour l'instant, j'ai beaucoup mieux à te proposer. Et Yama lui montre le destin extraordinaire qu'il est capable de lui faire avoir si, comme troisième vœu, il dit « Je voudrais être roi, je voudrais être puissant, je voudrais être riche, je voudrais… » Voilà. Le petit garçon, ça lui est montré en cinémascope, parce que on est dans le monde subtil où on peut tout voir. Et le petit garçon dit, oui, c'est vraiment chouette et tout, mais il y aura un moment où ça se terminera. Ah oui, dit Yama. Et je me retrouverai exactement à l'endroit où je suis aujourd'hui. Ah oui, dit Yama. Non, alors c'est pas ça que je veux. Moi, ce que je veux, c'est savoir s'il y a quelque chose qui est radicalement libre de ce mécanisme. Alors, Yama dit, non, mais tu ne te rends pas compte, et tout ça. Même les dieux ne savent pas ce que c'est. Il y en a plein. On est juste quelques-uns à avoir compris, et il y en a plein, ils n'ont pas compris. Et ils cherchent quelqu'un pour les enseigner. Et moi, je n'enseigne pas à n'importe qui. Alors, demande-moi autre chose. Donc, de nouveau, il essaye de le tenter en lui faisant miroiter qu'il aura des femmes extraordinaires, une descendance nombreuse, etc. Et Nachiketa, pareil, il refuse et dit non. La seule chose qui m'intéresse, c'est savoir si oui ou non, il y a quelque chose en moi qui transcende la vie et la mort. Et là, je vous le donne en mille. Qu'est-ce qu'il fait Yama ? Il lui dit, assieds-toi et écoute bien ce que je vais te dire, parce que c'est un enseignement secret et ça s'appelle le yoga. Donc, tu vas écouter et après, tu pratiqueras et tu découvriras le secret de ce qui n'est pas assujetti à la vie et à la mort en toi. Voilà. Donc, vous voyez que c'est quand même une belle histoire. Mais ce n'est pas seulement qu'une belle histoire. Donc, je réponds à ma première question. Vous savez, il y a trois questions en jeu. L'origine du yoga, eh bien, selon la Katha Upanishad, le yoga est une science secrète qui n'appartient pas de droit au monde des hommes. Voilà. Ça appartient au monde subtil, au monde des dieux ou des anges, si vous voulez, et encore, pas à tous. Il y en a plein qui ne savent pas ce que c'est que leur vraie nature. Et donc, cette connaissance ou cette science, elle a été conquise par un jeune garçon qui a en quelque sorte obligé Yama à lui livrer son secret. Donc, de ce point de vue, le yoga, c'est un petit peu à la façon de Prométhée, vous savez, ce héros grec qui a volé le feu à Zeus et qui l'a donné aux hommes. Eh bien, de ce point de vue, Nachiketa, c'est un petit peu Prométhée. Il a réussi à capter la science du yoga et ensuite l'a donnée aux hommes. Donc, si on en croit la Katha Upanishad, eh bien, le monde du yoga, la pratique du yoga, ça nous met en relation avec ce niveau subtil de la réalité d'où est issue cette science. Alors, on verra comment les deux autres textes parlent de l'origine du yoga. Maintenant, le but du yoga, vous l'avez déjà entreaperçu, c'est un dépassement radical de la condition humaine. Et alors là, je vais vous lire quelques versets de la Katha Upanishad pour que vous voyez à quel point les choses sont dites d'une façon précise. Dans un texte, il y a quand même 2600 ans d'âge. Alors, par exemple, voici un premier verset qui nous dit, donc c'est Yama qui enseigne à Nachiketa et qui lui dit, le Créateur a affublé l'être humain d'un défaut qui fait que sa conscience tend naturellement à se diriger vers l'extérieur. Et de ce fait, l'être humain ne se connaît pas lui-même. Et il ajoute que l'homme avisé en quête de l'immortalité, que cet homme-là retourne sa conscience sur elle-même. Et il découvrira l'arrière-plan infini de sa vraie nature. Donc, Yama, l'un de ses premiers enseignements, c'est le retournement de la conscience vers sa source. C'est ça l'essence du yoga, selon cette Upanishad. Mais vous allez voir, c'est plus élaboré que ça. Alors, dans la même veine, donc au verset 15 du chapitre 3, Yama nous dit, ou dit à son élève, « C'est par la réalisation de cette conscience ultime, dénuée de toute qualité sensorielle, donc on ne peut pas la voir, on ne peut pas la toucher, on ne peut pas la sentir, on ne peut pas l'entendre, cette conscience profonde, donc c'est par la réalisation de cette conscience qui est sans commencement ni fin, qui est immuable et qui est le fondement de la conscience individuelle. C'est ce qui fait que nous avons une petite conscience à notre disposition. C'est parce qu'elle est en quelque sorte adossée à une grande conscience. Eh bien, c'est par la réalisation de cette conscience ultime que l'homme se libère des mâchoires de la mort. Donc, il se libère de ce cycle. Je suis vivant, je passe dans l'autre monde, puis j'oublie je perds toute conscience de moi-même, je suis renvoyé dans un nouveau corps, je n'ai pas conscience d'avoir vécu avant, donc je fais comme si c'était la première fois, et c'est reparti pour un tour. Et bien, pour mettre un terme à ce cycle du samsara, et bien, voilà ce que nous propose Yama dans cette Upanishad. Voilà pour les buts, ou le but. Maintenant, les moyens. La Katha Upanishad, elle donne les moyens de ce travail sur soi. Alors, je vais citer un premier verset que j'ai compressé parce qu'il est long et un peu compliqué. Donc, je l'ai réduit à ses éléments significatifs. Ah non, ce n'est pas celui-là. Celui-là, c'est un vrai verset tel que. Donc, au verset 12 du deuxième chapitre, il nous est dit « C'est au moyen du yoga de retournement vers soi-même. » Le mot sanskrit, c'est « adhyatma yoga », le yoga du retournement vers soi-même. « Que l'homme avisé réalise cette conscience unique, intemporelle, lumineuse, difficile à découvrir car occultée par les phénomènes mentaux habituels, c'est-à-dire nos pensées, nos émotions, nos préoccupations. » Et, indication technique très précieuse, et qui réside dans la profondeur de son cœur. Donc, cette conscience ultime, la porte d'entrée, c'est notre affectivité. Ce n'est pas quelque chose à chercher dans les idées. C'est quelque chose à chercher au fond de notre cœur, si vous me permettez cette expression. C'est la Katha Upanishad qui le dit. Et elle ajoute... Cet homme-là, celui qui trouve en lui, au fond de son cœur, cette conscience élargie, il se réjouit car il a obtenu ce qui est la source de toute félicité. Et alors, un peu plus loin dans le texte, au chapitre 3, les versets 10 à 12, il y a la description des 7 étapes de ce retour vers notre réalité la plus profonde. Donc c'est là où j'ai raccourci la citation et que je l'ai analysée, parce qu'elle est longue, mais l'idée, c'est que ça part de l'extérieur vers la plus grande intériorité. À l'extérieur, il y a nos organes sensoriels, mes oreilles, mes yeux, mon nez, ma bouche, etc. Un peu plus à l'intérieur, il y a les expériences sensorielles que je fais avec mes yeux. Les images, c'est plus subtil que l'œil physique. Les sons, c'est plus subtil que les oreilles physiques, ainsi de suite. Donc, toutes les expériences sensorielles sont plus subtiles que ce que nous avons de physique. Mais les expériences sensorielles elles-mêmes, elles se rassemblent dans ce qu'on appelle la fonction mentale, c'est-à-dire ce qui nous permet de reconnaître, ça c'est pas du bleu, c'est pas seulement du bleu, du noir et du gris, c'est une table et c'est un ordinateur. Là, ce ne sont pas mes sens qui me disent que c'est une table et un ordinateur, c'est mon esprit ou mon mental qui construit le concept à partir des données sensorielles. Donc en ce sens, le mental est une réalité plus profonde que les sens. Et derrière le mental, il y a une fonction que l'Inde appelle la buddhi, qui est la capacité à discriminer et à donner un sens à ce que le mental repère ou construit comme objet. Donc la buddhi, c'est ce qui me dit que... Donc le mental me dit que ce n'est pas juste des couleurs, mais que c'est un objet qui a un contour et qui a un usage, mais c'est la buddhi qui me dit que c'est un ordinateur. C'est-à-dire que qui précise l'usage de l'objet, d'accord ? Donc selon la perspective hindoue, cette forme d'intelligence est intuitive. Et donc, elle est plus profonde, plus subtile que simplement le mental. Et pour qui travaille cette intelligence intuitive ? Eh bien, elle travaille pour moi. Pour moi en tant que conscience personnelle, individuelle. Donc la conscience individuelle que je suis, elle est encore plus subtile que l'intelligence intuitive, encore plus subtile que le mental, encore plus subtile que les expériences sensorielles et bien sûr encore plus subtile que le corps matériel. Ça, c'est donc le cinquième niveau d'intériorisation. Mais, nous dit le texte, derrière la conscience individuelle que nous avons, il y a ce que l'Inde appelle le non-manifesté et qui correspond assez bien à ce que la psychologie moderne appelle l'inconscient. Parce que derrière la conscience que j'ai d'être moi, il y a tout un tas de choses qui sont cachées, auxquelles je n'ai pas accès, mais qui, dans certaines circonstances, apparaissent à la conscience. D'accord ? Mes pulsions, mes peurs, mes perturbations, voilà, les souvenirs traumatiques, par exemple, bon, j'en ai pas du tout, je peux ne plus en avoir conscience, mais c'est avyakta, c'est non manifesté. Mais c'est quand même aussi un aspect de moi. Donc, nous dit le texte, dans ce yoga de retournement vers la source, nous allons devoir traverser cette dimension de nous-mêmes pour rendre compréhensible, on va appeler l'inconscient, même si ce n'est pas le terme sanskrit. Et septième étape, derrière ou encore plus profond que l'inconscient, il y a cette supraconscience, cette conscience non individuelle. Voilà. Voilà les sept étapes de l'Adhyatma Yoga, le yoga du retournement de la conscience sur elle-même. Donc vous voyez que c'est un enseignement qui est très précis, complet et remarquable de profondeur. Oui ? Chacun des mots ? Il faut que je réfléchisse un peu. À la fin, si vous voulez. Alors, le même verset, la suite, il nous dit « Il n'est rien qui soit plus subtil que cette conscience supra-individuelle. Elle est l'ultime fin et elle est le but suprême. » Et l'Upanishad précise « Cette conscience... du fait qu'elle est occultée au plus profond de tous les êtres, n'est habituellement pas reconnue par eux. » Donc, elle est présente en chacun d'entre nous. C'est ce que dit l'Upanishad. C'est pas, il y en a, ils ont de la chance, ils ont ça en eux, et les autres, ils n'ont pas. Elle est chez tout le monde, mais presque personne ne s'en rend compte parce qu'elle est occultée. Et l'Upanishad précise, mais ceux qui... à l'aide d'une intelligence fine et aiguisée. C'est Bouddhi, le mot, d'accord ? Cette intelligence intuitive, à condition qu'elle soit fine et aiguisée, réussissent à suivre la précédente gradation. Eh bien, ils en arrivent immanquablement à percevoir sa présence comme une évidence. Donc, la méthode, c'est une méthode méditative où on s'intériorise de façon... plus en plus profonde et on entre de plus en plus dans le silence de son être véritable et, nous dit l'Upanishad, on arrive immanquablement à percevoir la présence de cette conscience comme une évidence. Voilà ce que la Katha Upanishad nous propose comme moyen à mettre en œuvre. Voilà, donc pour synthétiser cette première partie, eh bien, voici donc les réponses de la Katha Upanishad à nos trois questions. Concernant l'origine du yoga, ben on a vu que ça viendrait d'un niveau de la réalité plus subtil que celui auquel on est habitué. Et donc, c'est une grande chance que le yoga soit venu jusqu'à nous. Et donc, ça veut dire que quand on approche du yoga, quand on s'intéresse au yoga, quand on le pratique, on doit avoir cette conscience. Voilà, ce n'est pas une activité comme une autre. C'est une activité qui est porteuse d'un sens très, très profond. Et si on s'en tient au yoga tel qu'il est présenté dans la Katha Upanishad, son but, c'est un but radical. C'est de nous permettre de découvrir ce qui en nous transcende la vie et la mort. cette conscience qui est atemporelle et qui est universelle. Donc vous voyez que bon, on est un petit peu loin de la motivation de base de quelqu'un qui s'inscrit à un cours de yoga. J'en ai pas encore vu beaucoup qui disent « Oui, je viens parce que je voudrais vérifier qu'il y a bien quelque chose qui transcende la vie et la mort en moi. Est-ce que je suis au bon endroit ?» Bon, peut-être, Luc, tu as eu beaucoup de clients comme ça, mais moi, pas beaucoup au cours de ma carrière. Mais ce n'est pas parce que les personnes qui se mettent au yoga n'ont pas cette perspective en vue au départ, qu'il n'est pas utile de s'ouvrir à cette perspective, parce que c'est ça la vraie perspective du yoga. Le reste, après, c'est des outils qui vont être développés de plus en plus complexes et perfectionnés. Donc, en ce sens, il y a une évolution dans le yoga. Et là, à cette époque-là, le yoga, il n'est pas question de la moindre posture. Il est juste question d'un retournement de son attention vers sa source. Mais pourtant, ça s'appelle du yoga, puisque ça s'appelle même de l'adhyatma yoga, le yoga du retournement de la conscience sur elle-même. Voilà. Bon, ça vous a plu, ce petit passage par ce premier texte? On fait une petite pause si vous voulez poser des questions là-dessus, puis après j'attaque la Bhagavad Gita, qui est encore un sacré morceau. Oui. Ah ben alors voilà, le mot sanskrit là, c'est Shanti Atman, la conscience paisible, que j'ai traduit par la conscience suprême, j'ai mis où ? Hein ? Comment j'ai mis ?
Supra-individuel.
Alors, on change d'époque, mais vous allez voir, on ne change pas complètement d'ambiance. Mais, évidemment, ça va être présenté un peu différemment. Alors, c'est quoi la Bhagavad Gita? Est-ce qu'il y en a parmi vous qui n'ont jamais entendu ne serait-ce que le mot? Oui, bien sûr, hein, c'est normal, oui. Voilà, on a le droit. Hein. Bon, voilà, il ne faut pas poser la question comme ça. Qui a déjà entendu parler de la Bhagavad Gita? Non, il n'y a pas plus de... Bon, alors de quoi s'agit-il? Alors, c'est le texte sacré le plus célèbre de l'hindouisme. Si vous vous intéressez un tout petit peu à l'Inde, à un moment ou à un autre, vous entendrez forcément parler de la Bhagavad Gita. C'est le premier texte qui a été traduit en français à la fin du XIXe siècle. Et les grands écrivains et les grands philosophes avaient lu la Bhagavad Gita. Comment il s'appelle ? Victor Hugo avait lu la Bhagavad Gita. Heidegger, c'est un fan de la Bhagavad Gita. Voilà, donc c'est un texte qui est très connu. Pourquoi c'est un texte qui est très connu? Parce qu'à cause de son contenu, dont je vais vous parler, mais il faut d'abord le situer dans un texte plus vaste, parce que la Bhagavad Gita, c'est qu'une toute petite partie d'un texte immense qui s'appelle le Mahabharata. Alors peut-être certains d'entre vous ont aussi entendu ce mot, parce qu'il est assez connu. Le Mahabharata, c'est une grande épopée. Ça correspond à peu près, pour l'Inde, à ce qu'est l'Iliade dans le monde grec. L'Iliade qui raconte la guerre de Troie. Hein, eh bien, le Mahabharata, il raconte la guerre de Kurukshetra. Voilà, c'est le même principe. Donc une grande épopée. Et au cours de cette épopée, deux des personnages de l'épopée, un qui s'appelle Krishna et l'autre qui s'appelle Arjuna, vont se retrouver en plein milieu d'un champ de bataille. Et c'est comme ça que commence la Bhagavad Gita. Et donc la Bhagavad Gita, c'est le dialogue initiatique qui a lieu entre Krishna et Arjuna. Alors, la Bhagavad Gita, c'est un petit texte. Là, j'ai amené une traduction, par exemple, hein, en poche. Vous voyez, ce n'est pas très épais. Et en plus, il y a des commentaires. Mais il est organisé, il y a quand même 18 chapitres. Mais c'est des chapitres courts. Hein. Il y a à chaque fois une soixantaine de versets par chapitre. Et alors, ce qui est vraiment intéressant à remarquer, ou ce qui est notable à remarquer pour commencer, c'est que chaque chapitre s'appelle quelque chose yoga, ou le yoga de quelque chose. Donc, il y a 18 chapitres qui traitent de 18 aspects du yoga. Donc, c'est en ce sens-là que c'est vraiment un livre clé pour la philosophie du yoga. Vous allez voir, il n'est pas beaucoup question de posture. Mais pour la philosophie du yoga, oui. Alors, je vous donne comme ça quelques titres. Le chapitre 2, par exemple, ça s'appelle le yoga de la connaissance, ou le yoga de la, de la connaissance discriminative. Bon. Le chapitre 3 s'appelle le yoga de l'action. Le chapitre 12 s'appelle le yoga de la dévotion. Voilà, je fais exprès de donner ces trois termes-là parce que c'est des mots que vous, dont vous avez entendu parler, le bhakti yoga, le yoga de la dévotion, le karma yoga, le yoga de l'action, le jnana yoga, le yoga de la connaissance. Donc, le livre décrit une forme de yoga ou un aspect du yoga à chaque chapitre. Donc, c'est pour ça que c'est très riche. Alors, évidemment, hors de question que je vous résume la Bhagavad Gita ce soir. Je vais juste instruire nos trois questions à partir de là. Donc, est-ce que la Bhagavad Gita nous dit quelque chose sur l'origine du yoga? Eh bien, oui. Alors, avant ça, donc, la mise en scène. Bon, ben, voilà, donc, il y a deux armées. Pour comprendre pourquoi il y a deux armées, c'est toute une... il faut se référer à tout ce qui se passe avant dans le Mahabharata. Mais il y a un moment où ces deux armées s'affrontent. Disons que d'un côté, il y a Zelensky et de l'autre côté, il y a Poutine. Voilà. Son cousin. Voilà. Donc, en gros, il y a le clan des bons et le clan des méchants. Voilà. Et le général en chef de l'armée des bons s'appelle Arjuna. Et par chance pour lui, il a un ami tout à fait extraordinaire qui s'appelle Krishna. Pourquoi c'est un ami extraordinaire? C'est un prince, et puis c'est un prince qui lui dit « Je veux bien conduire ton char, parce que je vois que tu es quand même embêté, et tu n'as pas trouvé de conducteur de char digne de ce nom. Moi, je suis ton ami, je veux bien le conduire. » Alors Krishna est très honoré, parce qu'il a senti que son ami, quand même, il avait un rayonnement un peu spécial. Voilà, parce que donc c'est un prince, c'est un être humain qui est né mais il est ce qu'on appelle en Inde un avatar, c'est-à-dire que à travers lui, Dieu s'est incarné pour aider les hommes. C'est ça la notion d'avatar. Hein. C'est pas le film. Enfin, le mot vient de là. Hein. Le mot sanskrit, c'est avatara, c'est descente du divin dans le plan matériel. Donc Krishna est un avatara et ça va se révéler au moment clé. Parce que qu'est-ce qui se passe au moment de lancer, parce que c'est à Arjuna de lancer les hostilités, parce qu'à l'époque on fait ça quand même de façon chevaleresque, on sonne dans une trompe pour dire « Allez-y les gars, on met la gomme ». Et à ce moment-là, les deux armées se sautent dessus. Mais tant que le coup d'envoi n'a pas été donné, on s'invective, on se traite de nom d'oiseau et tout ça, tu vas voir tout à l'heure ce que je vais te faire et tout ça, mais bon. On attend le coup d'envoi. Sauf que c'est une situation très complexe parce que, un petit peu comme ce qui se passe actuellement en Ukraine, c'est que des gens qui se connaissent. Ils habitaient le même pays avant. L'Union soviétique, ils étaient tous... Donc, ils sont tous... Il y a beaucoup de liens familiaux. En face, si ça se trouve, je vais peut-être tuer mon beau-frère, mon oncle... un copain de mon fils, quand c'est pas un de mes fils qui s'est marié avec quelqu'un de l'autre camp, et je vais. Donc ça va être vraiment une boucherie. Et donc, alors qu'Arjuna est évidemment un guerrier hors norme, c'est le meilleur des guerriers, tout ça, au moment de souffler dans sa conque, il est envahi d'un doute terrible. Il s'est dit mais qu'est-ce qu'on va faire? Je vais être responsable d'une boucherie. Il faut mieux que je renonce. Il faut mieux que je laisse mon cousin prendre le royaume. Au moins, il n'y aura pas des milliers de morts. À quoi ça me sert? Soit je gagne, mais ça serait une victoire qui sera dans le sang. J'aurais tué des gens que j'aime, et donc je ne serai pas en paix. Soit je suis tué, et soit je perds parce que je suis tué, soit je gagne, mais je serai pas en paix. Donc non, finalement, j'y vais pas. Voilà le contexte. Donc c'est décrit, une grande dépression, il broie du noir, il ne sait plus comment il s'appelle. Donc il tombe de son char, il jette par terre son arc, son arme, voilà. Et alors là, Krishna dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Mais ça ne va pas du tout. Mais ressaisis-toi. Tu es le chef de cette armée. Mais tu ne peux pas laisser les choses se faire comme ça. Ton cousin, c'est un tyran terrible. Si tu lui laisses le royaume, ça va être pendant des générations et des générations des gens qui vont souffrir de sa tyrannie. Tu ne peux pas faire ça. Il dit, oui, mais alors là, je suis paumé. Je ne sais plus ce qui est bien, ce qui est mal. Je suis en pleine confusion. Alors c'est à ce moment-là que Krishna lui dit, bon, et alors écoute, je vais t'enseigner le yoga. Vous voyez le contexte. Et le texte nous dit, tout le monde dans le champ de bataille se dit, mais qu'est-ce qu'ils ont à se raconter? Parce que ça dure quand même 18 chapitres. Donc, il lui raconte, il lui enseigne et il lui apprend à dépasser ses agitations mentales pour retrouver la conscience profonde à partir duquel ou de laquelle il se sentira capable de combattre sans avoir peur ni de perdre ni être attaché au fait de gagner. Il combattra juste parce que c'est ça qui est à faire. Et c'est ça le fameux karma yoga, le yoga de l'action. Donc voilà le contexte. Donc vous comprenez pourquoi ce texte est célèbre, parce que voilà, il y a 18 chapitres qui nous parlent de comment faire pour apaiser notre esprit, trouver notre centre véritable et ensuite agir en toute sérénité. Mais avant d'entrer un petit peu dans le détail de ces enseignements, eh bien, je voudrais signaler les quelques versets qui parlent de l'origine du yoga. Eh bien, là encore, on va être ramené à cette idée que le yoga n'est pas une invention des hommes, mais un cadeau qui a été fait aux hommes par Dieu. Alors, voilà ce qu'il dit au chapitre 4. Donc, Krishna, il est en train donc d'enseigner Arjuna. Et il lui dit, ce yoga impérissable, il l'a déjà commencé à lui enseigner au chapitre 2 et au chapitre 3. Je l'ai enseigné, dit-il, dès l'origine, au meilleur des hommes. Ceux-ci l'ont retransmis à leurs descendants, qui l'ont retransmis ensuite aux générations suivantes. Mais au fil des temps, ce précieux enseignement s'est perdu. C'est pourquoi je suis revenu sur terre pour te l'enseigner à nouveau. Donc Krishna se présente non pas comme... Là, il se présente non pas comme un être humain, mais comme l'incarnation de Vishnu. Bon, si vous connaissez un petit peu la mythologie hindoue, Vishnu, c'est l'aspect compassionnel de Dieu. Donc, quand Dieu se manifeste en tant que compassion, on l'appelle Vishnu. Quand il se manifeste en tant que créateur, on l'appelle Brahma, et quand il se manifeste en tant que destructeur, on l'appelle Shiva. Mais je ne vais pas rentrer là-dedans ce soir, mais voilà, sachez que ces trois aspects d'un seul et même principe. Donc voilà, il se présente comme une émanation de Dieu qui vient en quelque sorte rallumer la flamme du yoga. Mais la flamme du yoga, elle avait été allumée dès l'apparition des hommes, si on en croit la Bhagavad Gita. D'accord ? Et il explique dans le verset suivant, toujours c'est Krishna qui parle, « Bien que je sois sans naissance », donc il ne parle pas en tant que Krishna, mais il parle en tant que le principe qui anime Krishna, puisque Krishna, il est né et il va mourir. Mais voilà. Bien que je sois sans naissance, bien que je sois le seigneur de toutes les créatures, donc là, il est bien dans la conscience de sa propre divinité, je me suis incarné temporairement pour toi. Car à chaque fois que l'harmonie du monde est trop gravement perturbée, je me réincarne pour la rétablir. Donc là, dans l'histoire, on est rendu à une période extrêmement critique, parce que cette bataille est une bataille homérique, dont l'avenir de l'humanité dépend. Et donc, voilà, dans sa compassion, Dieu s'est incarné en Krishna pour aider. Voilà. Mais aider comment ? Mais Krishna n'est pas un combattant. Il a refusé de combattre. Il a juste dit, je veux bien conduire le char de celui qui veut. Donc Arjuna a dit, moi, je veux. Voilà. Donc ça, c'est pour l'origine du yoga. Maintenant, le but du yoga selon la Bhagavad Gita. Eh bien, il y a évidemment, c'est dans la foulée ou dans la suite de ce qu'on a vu tout à l'heure, mais il y a une particularité. Krishna dit de façon très claire que l'essence du yoga, c'est l'état d'équanimité. Le mot équanimité, c'est-à-dire égalité d'âme, capacité à rester serein en toutes circonstances. Et le mot sanskrit, c'est samadvam. Donc c'est en fait la définition que Krishna donne du yoga. Le yoga, c'est atteindre un état d'équanimité. Et ensuite, il explique, et par exemple, il y a beaucoup de versets, j'en ai juste pris un ou deux pour vous donner à sentir un peu de quoi il est question. Par exemple, au verset 9, là, il dit, « Est un yogi accompli, au chapitre 6, du verset 9, « Est un yogi accompli celui qui peut considérer avec la même sérénité un ami et un ennemi, un proche et un inconnu, un allié et un adversaire, un homme bon et un homme méchant. Celui qui est capable de garder la même sérénité en face de personnes comme ça très très différentes. Même sérénité, ça ne veut pas dire même comportement. Je peux être serein et me défendre, mais je ne serai pas perturbé. C'est ça dont il s'agit, hein. Et plus loin, Krishna explique que l'utilité de cette sérénité, c'est que ça rend habile dans l'action. Parce que si je suis ancré dans cette sérénité, eh bien je vais être efficace, ni en faire de trop, ni ne pas en faire assez. Je vais voir ce qui est correct, ce qui convient, ce qui est le plus adapté à chacune des situations que je rencontre. Et donc c'est pour ça que ce texte est si célèbre, c'est parce qu'au-delà du contexte de la guerre, en fait, nous nous trouvons dans plein de situations qui sont moins dramatiques et qui n'impliquent pas des milliers de vies, mais dans lesquelles on est en confusion. Mais qu'est-ce que je fais? Est-ce que je déménage? Est-ce que je ne déménage pas? Est-ce que je marie ou je romps une relation, est-ce que, etc. Voilà. Eh bien, si on se met à l'écoute de la Bhagavad Gita, eh bien, on va avoir des éléments pour nous aider à trouver en nous un fond de sérénité à partir duquel l'action devient beaucoup plus aisée. Voilà, donc ça c'est le but, un peu la spécificité ou la particularité de la façon dont la Bhagavad Gita présente le but du yoga. Enfin, c'est un aspect, parce que comme c'est vaste, il y a beaucoup de choses. Maintenant, les moyens à mettre en œuvre. Bon, ben, 18 chapitres, 18 thèmes, voilà, donc ça serait très long. Je ne vais retenir que les passages du texte qui laissent entrevoir la pratique du yoga telle que nous la connaissons aujourd'hui, les postures et la respiration. Donc dans la Bhagavad Gita, il n'est pas question des postures au pluriel, mais par contre, il est question de la posture de méditation d'une façon assez précise et assez technique. Donc ça montre bien que la méditation, dès cette époque-là, c'est-à-dire il y a 2400 ans, c'était une pratique essentielle du yoga. Alors voilà les versets, c'est au chapitre 6, versets 11, 12, 13. qu'en un lieu propice, l'aspirant yogi s'aménage un siège de méditation qui soit stable, ni trop haut, ni trop bas, recouvert d'une étoffe ou d'une peau d'antilope ou encore d'herbes sacrées. Et alors, une fois qu'il s'est aménagé son siège, qu'est-ce qu'il fait ? Et là, bien installé sur ce siège, toute activité des sens et du mental suspendue, qu'il pratique le yoga avec l'esprit concentré en vue de se purifier. Donc, on a bien l'idée qu'il faut s'asseoir, suspendre l'activité des sens et du mental et pratiquer le yoga. Alors, c'est quel yoga ? Ben, c'est le yoga du retour vers sa conscience profonde. Donc, on fait le lien avec la Katha Upanishad. Et pour vous faire pressentir que, voilà, le Hatha Yoga, le yoga corporel, il est déjà là à l'état de trace, eh bien, dans le verset suivant, « Ainsi placé, maintenant le corps, la tête, le cou bien aligné. » Donc, il est question de la précision de la posture. Et immobile, qu'il fixe son regard sur la pointe du nez sans le laisser vagabonder sur autre chose. Donc là, on est dans la technique, l'amorce de la technique. Et ça a 2400 ans d'âge. Un peu plus loin, il y a un autre verset, le verset 29, où il donne des pratiques alternatives et où il est question du pranayama, le contrôle de la respiration. Krishna dit, en plus de quoi certains pratiquent le contrôle de la respiration. Ils se livrent alors alternativement au sacrifice, entre guillemets, du souffle expiré dans le souffle inspiré et inversement, en suspendant tour à tour leur expiration puis leur inspiration. Le sacrifice, c'est ça, je suspends mon inspiration, donc je sacrifie, je l'arrête, ou je suspends mon expiration, donc je la sacrifie. Voilà, donc, dans ces quelques versets, on a l'amorce de ce que nous, on appelle le yoga, c'est-à-dire les pratiques psychocorporelles. Voilà, donc la réponse de la Bhagavad Gita à nos trois questions, eh bien, du point de vue de la Bhagavad Gita, ce n'est pas un ange subtil, Yama, qui a transmis le yoga, ou en tout cas, ce n'est pas lui qui a tout transmis. Il a été aussi transmis par une instance supérieure. Vishnu, il est supérieur aux déités. Ce n'est pas un Deva, c'est un aspect du Dieu unique. Donc, c'est dès le départ que le principe divin a insufflé le yoga chez les hommes, chez les êtres humains. Et alors, tout spécialement, eh bien, ça a été exposé par Krishna, et par chance, depuis 2500 ans, on a conservé le dialogue. Alors, bon, les historiens vont dire, oui, mais alors, ça a été modifié, il y a des rajouts, etc. Bon, mais en gros, l'idée, c'est que quelque chose s'est transmis depuis cette époque. Et alors, donc ça c'est la première question, l'origine. Le but, ben, on a vu que l'accent est mis davantage sur le développement de notre capacité de résilience et de sérénité. Et cela, donc, pour que nous soyons des acteurs dans le monde. La Bhagavad Gita n'est pas du tout un texte qui prône le renoncement au monde, hein, la contemplation. C'est pas interdit, mais c'est typiquement un texte fait pour les gens qui sont encore dans le monde, pas pour des gens qui s'en retirent. Et on le voit quand même, ça c'était pour le but, et les moyens, eh bien les moyens, on voit quand même que globalement le yoga est toujours conçu comme une discipline qui est principalement mentale. Mais on voit l'amorce de l'utilisation du corps et de la respiration comme point d'appui possible. C'est ce que je vous ai montré dans les derniers versets cités. Voilà ce que j'avais envie de vous dire pour parler de cette deuxième source du yoga. On fait une petite pause si vous avez des questions et après on en vient au gros morceau. Yoga Sutra de Patanjali. Alors, ça a été très très sanglant. Il y a eu énormément de morts des deux côtés. Mais évidemment, à l'extrême fin, ce sont les bons qui ont gagné. C'est pour ça que le texte est parvenu jusqu'à nous. Sinon, les autres, ils l'auraient brûlé. Si vous êtes intéressé par le récit du Mahabharata, je suis en train d'écrire une série d'articles et que je pense que je mettrai en ligne à la rentrée. Mais il y en aura, c'est long, donc il y aura, voilà, il faudra lire par épisode. On vous fera passer l'information. Ça va, vous n'êtes pas lassé, je peux encore continuer. Une heure là, ça va, j'ai encore. Hein. Oui. Et justement, ce n'est pas après, c'est avant qu'il faut avoir atteint la sérénité.
Et après, comment on fait la paresse ?
Eh bien, justement, c'est ça la force du yoga, tel que Krishna l'enseigne à Arjuna, c'est que si on a agi en étant centré sur sa profondeur et qu'on a fait jour après jour et instant après instant l'action juste, on n'a aucun remords. Ce qui ne pouvait pas être évité n'a pas pu être évité et les résultats sont ce qu'ils sont.
Est-ce que ça crée une absence de remords ou juste l'indifférence ?
Alors, ça dépend qu'est-ce qu'on entend par indifférence. Si c'est je m'en fous, non.
Non, mais c'est-à-dire qu'il a entraîné des morts et des morts et des morts.
Oui, mais il l'a entraîné parce que c'était le prix à payer pour que quelque chose de juste puisse être rétabli. Ce n'est pas pour le plaisir. Du point de vue de Krishna et de la Bhagavad Gita, c'est-à-dire les valeurs spirituelles. Voilà. Mais je ne dis pas que c'est facile à comprendre, hein, mais voilà. En tout cas, il faut le voir aussi. Alors, si on s'intéresse à ce qui se passe avant la bataille, ils font tout ce qu'ils peuvent pour éviter la guerre, y compris se plier en quatre, dire si c'est comme ça, on vous laisse tout, etc. Et les autres, ils en veulent toujours plus, toujours plus, toujours plus, toujours plus. Et il y a un moment, on ne peut pas ne pas dire stop, en quelque sorte. Et donc, ils disent stop. Voilà, il faut le voir comme ça. C'est un peu comme, la guerre 39-45, ben oui, d'accord, et à un moment, non. Voilà. Bon, mais c'est des grandes questions. Hein, ça va, je vous ai déjà à peu près répondu. Alors, on change d'époque, 200 ans plus tard, en gros, hein, parce que des historiens pourrait pinailler sur les dates, mais j'ai trouvé que c'était facile de dire moins 600, moins 400, moins 200, comme ça donne une idée. Là, on se retrouve avec un texte qui s'appelle le Yoga Sutra, que j'ai aussi ici, et donc vous voyez, c'est pas très épais, et c'est, en fait, c'est même beaucoup moins épais que ça, parce que là, il y a plein de commentaires. Et en fait, c'est le premier texte technique qui présente le yoga d'une façon raisonnée, et non religieuse. Alors, on va voir quand même qu'il y a une référence à Dieu, mais c'est un Dieu impersonnel, c'est un Dieu philosophique. C'est pas un Dieu avec un visage, avec qui on rend un culte, etc. Donc, quand on veut savoir ce que c'est que le yoga, eh bien, il faut d'abord et avant tout s'intéresser à ce texte, le Yoga Sutra. Sauf que c'est quand même un texte qui a 2200 ans, donc c'est très difficile à lire sans un bon commentaire. En plus, c'est écrit d'une façon très laconique, des petites phrases courtes qui sont faites pour être mémorisées par cœur. Parce que je vous signale qu'à l'époque, l'imprimerie n'était pas inventée. Donc la meilleure façon pour transmettre un texte, ce n'était pas de l'écrire sur des feuilles, ça se faisait aussi, mais ça prend un temps très très long. C'était de l'apprendre par cœur. Donc, Les sutras sont des textes qui sont composés de telle façon qu'ils soient faciles à mémoriser. Pour un Indien, pour nous c'est un peu difficile, mais pour un Indien, voilà. Et donc, ce sont des phrases courtes, mais qui sont donc presque des têtes de chapitre qui doivent être développées ensuite par l'enseignant, oralement, pour prendre tout leur sens. Voilà. Alors, pour vous donner une vue d'ensemble de ce qu'on trouve dans le Yoga Sutra, alors donc Patanjali, c'est l'auteur. Hein. Donc je ne vais pas en parler beaucoup ce soir, je vais parler de son texte. En gros, Patanjali part du constat de la réalité de l'insatisfaction humaine. Alors, ceux parmi vous qui sont des familiers du bouddhisme, vous allez trouver que ça a des consonances très très fortes avec l'origine du bouddhisme. Hein. La première noble vérité du Bouddha, c'est la vie et souffrance. Enfin, je ne sais pas exactement, c'est comme ça qu'on le dit. Eh bien, Patanjali, on va voir tout à l'heure un sutra où il dit exactement la même chose. Ensuite, et ça ressemble aussi au bouddhisme, il analyse les causes de cette insatisfaction chronique. Et ensuite, il présente le yoga comme le moyen de surmonter les causes de cette insatisfaction chronique. Et c'est dans ce passage qu'on trouve la définition classique de ce qu'est le yoga que je vais vous donner tout à l'heure. Et enfin, ou après, je suis désolé, enfin je ne suis pas désolé, je sais même, nous avons parmi nous Hervé Le Goisiou qui est le responsable du centre culturel bouddhique de Rennes. Donc il connaît bien le bouddhisme, voilà. Et donc, voilà, je suis désolé, j'aurais dû te prévenir, ne viens pas, tu vas m'entendre dire des choses que tu connais. Bon, mais... Donc, Patanjali propose une méthode en 8 parties. Et le mot, enfin l'expression 8 parties, ça se dit en sanskrit Ashta Anga. Et Ashta Anga, les deux A se combinent et ça donne Ashtanga. Ashtanga Yoga, c'est le yoga en 8 parties, étymologiquement. Donc en théorie, ce qu'on serait censé faire ici à la TA, c'est ce que Patanjali va nous exposer de sa vision à lui du yoga. Et vous verrez que le fait qu'on appelle ça l'AREL, l'association rennaise d'Ashtanga Yoga, bon, peut-être qu'on se prend un peu pour plus grand qu'on est, ou plus petit. Non, plus grand qu'on est. Bon, mais en tout cas, voilà. On pourra reparler de l'origine de la dénomination de cette école. Mais voilà, en tout cas, ça vient de là. Alors, je reprends mes trois questions. L'origine du yoga. Selon le Yoga Sutra, eh bien, dans beaucoup d'écoles de formation de professeurs de yoga, on aime à dire que le yoga, c'est quelque chose qui est en dehors de l'hindouisme, qui ne fait pas référence à la religion, et donc on peut parfaitement être athée et faire du yoga. C'est vrai, d'un point de vue pratique, vous pouvez venir dérouler votre tapis, dire « je ne crois pas en Dieu, mais comment on fait la posture du poisson ?» On montre la posture du poisson. Vous faites une posture du poisson, ou la chandelle, ou n'importe quoi, très bien. Mais c'est quand même intéressant de savoir que dans le texte fondateur de cette discipline, c'est de nouveau Dieu, ou le divin, on peut utiliser différents termes, qui est considéré comme la racine du yoga. Alors voilà comment Patanjali en parle. Et là, le mot au sanskrit, c'est Ishwara. Donc ça n'est plus Vishnu. Vishnu, Brahma, Shiva, c'est encore des représentations avec des formes. Voilà, Vishnu, il y a toute une symbolique, il est assis sur un serpent, etc. Bon. Ishwara, il n'y a pas de représentation. Vous ne trouverez aucun temple à Ishwara en Inde. C'est le principe du divin, à l'état pur. Eh bien, Patanjali nous dit, Ishwara est la source de toute connaissance. Comme il est éternel, il est le maître originel de tous les yogis, puisque les connaissances yogiques, elles viennent forcément de la source. D'accord ? Même, nous dit-il, des plus anciens, donc les fondateurs de lignées ou même un fondateur du yoga comme Patanjali, il n'est pas le fondateur, mais il est le premier à avoir présenté d'une façon complète le yoga. Bien, même lui, ce qu'il a appris, si on remonte, ça vient forcément de la source de toute connaissance qui est Ishvara. Et plus loin dans le texte, au deuxième chapitre, du coup, il en remet une couche. Il dit, en pratique, quand il s'agit de définir d'une façon pratique le yoga, il dit le yoga, ça consiste en trois choses. Faire des efforts, ça c'est sur le plan corporel, entre autres. S'étudier soi-même, ça c'est sur le plan mental. Et développer la confiance en Dieu, ça c'est le plan spirituel. Donc, dans la pratique même du yoga telle que l'envisage Patanjali, il y a le corps, il y a l'intelligence et il y a le cœur. Le cœur, c'est la confiance. Alors, si vous me dites, oui, mais moi, je ne crois pas en Dieu. Mais peut-être vous pouvez vous ouvrir à la vie universelle, l'harmonie, la beauté, des valeurs qui sont qui dépassent le plan personnel. Et c'est de ça dont il s'agit. Si vous voulez que votre yoga soit efficace, il faudra que, si possible, que vous ouvriez votre cœur à des valeurs qui vous dépassent. Parce que c'est ça qui va vous donner, Patanjali l'explique très bien, le courage et l'énergie pour persévérer. Si vous comptez juste sur votre petite détermination à vous, à un certain moment, vous le savez bien, on est plein d'enthousiasme, oui, je vais faire du yoga tous les jours, etc. Puis après, le soufflet retombe, et puis, j'en ferai du yoga demain, plutôt après-demain. Parce que demain, voilà. Patanjali explique très bien que pour que notre motivation soit pérenne, il faut qu'on la relie à quelque chose qui vienne de plus loin. Eh bien, c'est ça, Ishvara, si vous voulez sortir des représentations anthropomorphique issu du christianisme, par exemple. Voilà. Donc, vous le saurez, donc, dans le Yoga Sutra aussi, il est question de l'origine divine du yoga. Maintenant, le but. Alors là, on va rentrer dans un peu plus de détails, hein, et je vais reprendre ce que je disais tout à l'heure, le constat initial de la souffrance. Alors voilà ce qu'on lit par exemple au Sutra 15 du deuxième chapitre. Aux yeux du sage, du fait de l'instabilité de tout ce qui existe, la condition humaine est souffrance ou est souffrante, ou est insatisfaisante. Le mot sanskrit, c'est dukkha, la souffrance. D'accord ? Alors en fait, j'ai raccourci le Sutra parce qu'il est un peu compliqué et technique, parce qu'il détaille pourquoi est-ce qu'on souffre. Parce que les choses ne durent pas, ou alors celles qui durent un certain temps ne sont pas toutes agréables. Il dit qu'en fait, exister, par le fait même d'exister, il y a des contraintes. Je ne sais pas moi, il faut manger, il faut se vêtir, il faut dormir, voilà, on a des contraintes physiologiques. Eh bien, quelque part, ces contraintes, elles limitent notre capacité au bonheur, d'un point de vue ordinaire. Hein. Voilà. Donc, et puis, le texte nous dit aussi, la nature elle-même, elle nous empêche d'être heureux, parce qu'il y a des phénomènes naturels qui viennent nous perturber. Voilà, on en parle assez ces temps-ci, hein, du réchauffement climatique, des différentes catastrophes écologiques. Eh bien, voilà, comment être heureux dans un univers qui, à certains égards, est hostile, ou en tout cas qui est suffisamment instable pour qu'une situation qui, à un moment donné, est agréable, se tourne en son contraire. Voilà. Donc, Patanjali part de cette constatation-là, qui est donc très proche de la constatation du Bouddha. Et au sutra suivant, il nous dit « Mais la souffrance qui n'est pas encore advenue peut être évitée. » Donc, tout est souffrance, mais il y a une porte de sortie. Si on s'y prend bien, Ben, la souffrance qui est déjà là, hein, si j'ai une maladie grave, ben, cette maladie, je vais me soigner, mais je ne peux pas faire que je n'ai pas la maladie. Mais par contre, si je ne suis pas encore malade, eh bien, si je m'y prends bien, je ne tomberai pas malade. Enfin, je prends un exemple exprès simple. Bon, mais comment faire pour éviter la souffrance? Eh bien, il faut analyser les causes de la souffrance. Et ici, il y a une analyse très intéressante et très fine sur un plan philosophique des causes de la souffrance. Ça se trouve au verset 3 du deuxième chapitre. Je vous le donne d'abord en sanskrit, parce que comme ça, tout le monde comprend. Puis après, j'explique. Avidya, Asmita, Raga, Dvesha, Abhinivesha, Kleshaha. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Voici les cinq causes de la souffrance. Klesha. Klesha, c'est les empêchements au bonheur. Et les versets sanskrits, on les lit souvent à l'envers. Là, on lit le premier mot, klesha, puis après, on va au début de la ligne, et puis on lit avidya. Alors, avidya, ça veut dire l'ignorance. Donc, l'ignorance, c'est la première des causes de notre malheur. L'ignorance de quoi? L'ignorance de nous-mêmes. L'ignorance de notre vraie nature. Vous voyez que ça fait le lien avec ce qu'on a vu avant. Si nous étions des bons élèves de Yama et que nous ayons appliqué la méthode d'intériorisation jusqu'à trouver notre vraie nature qui est immuable, eh bien nous saurions que c'est ça notre vraie nature. Nous ne nous prendrions pas pour une entité finie. Donc comme on n'a pas conscience de cette plénitude qui est à l'arrière-plan de nous-mêmes, nous nous prenons pour la petite entité finie qu'on appelle « moi ». Et en sanskrit, « moi », ça se dit « asmita », l'ego. Ego, c'est « moi » en latin, hein. D'accord ? Donc la deuxième cause de souffrance, c'est que comme on n'a pas conscience de notre profondeur, on se prend pour notre surface. Et on se confond avec la petite conscience que nous avons de nous-mêmes, asmita. Ça, c'est la deuxième cause de souffrance. La troisième et la quatrième cause de souffrance résultent de notre identification à notre ego. Puisque je me prends pour une entité limitée, eh bien, il y a des choses que je considère comme bénéfiques pour l'entité limitée que je suis et d'autres choses que je considère comme négatives, mauvaises. D'accord ? Raga, c'est mon attraction pour ce qui est agréable. Et Dvesha, c'est ma répulsion pour ce qui est désagréable. Donc, et le texte nous dit, c'est respectivement la troisième et quatrième cause de souffrance. Et enfin, tout au bout de la chaîne, puisque je suis attaché à ce qui est agréable et que j'ai peur de ce qui est désagréable, eh bien, la chose qui me fait que je redoute le plus, c'est la mort. Parce que la mort, c'est la fin de l'entité limitée. La mort, c'est la mort de l'ego. Enfin, la mort de moi. Tant que j'ai l'impression que je suis que moi, eh bien, je suis obligé d'avoir peur de la mort de moi, puisque je suis que ça. Donc, je perds tout. Si je meurs, je perds tout. Voilà. Donc, c'est parce que nous sommes implicitement tous en train de ne pas penser que nous sommes mortels, de nous distraire, de nous accrocher à des choses qui sont agréables et d'éviter les choses qui sont désagréables, que nous vivons comme ça, en ayant l'impression que tout va bien, enfin, selon les jours. Hein. Mais on ne pourra jamais aller vraiment bien si on n'a pas dépassé la peur de mourir. C'est ce que nous dit Patanjali. Mais pour dépasser la peur de mourir, alors il faut faire le truc à l'envers. Pour dépasser la peur de mourir, il faut remettre en cause notre attachement à ce qui est agréable et notre crainte de ce qui est désagréable. Ben, vous allez dire, mais comment je peux faire pour remettre en cause? C'est pas possible, puisque je dépends de ça en tant que moi. Donc, il faut remettre en cause le moi. Il faut dire, mais ben oui, ça n'est possible que si je ne suis pas que moi. Et du coup, il faut remettre en cause l'ignorance que j'ai de ma vraie nature. Vous voyez le processus philosophique tout à fait cohérent et intense. Alors oui, j'avais oublié de noter donc le dernier terme, l'attachement instinctif à la vie, c'est-à-dire la peur de la mort, qui en sanskrit se dit abhinivesha. Donc, pour mettre fin à la possibilité même de souffrir, il faut mettre fin à l'ignorance de notre vraie nature. Eh bien, pour Patanjali, c'est ça le but du yoga. Il faut réussir à percevoir la dimension universelle de nous-mêmes, celle que, dans la Katha Upanishad, disait, que j'ai traduit comme ça du moins, la conscience supra-individuelle, la dimension universelle de chacun d'entre nous. Eh bien, comme vous allez le voir, c'est effectivement le but technique du yoga, selon Patanjali. Et ça, c'est ce qu'il pose en tout début du premier chapitre, dans les versets 2 et 3, que je vais vous lire, ou que nous allons découvrir ensemble, mais là, il y en a plein qui connaissent déjà, puisque c'est yoga, citta, vritti, nirodha. C'est la définition classique du yoga. Toute personne sérieusement intéressée par le yoga devrait connaître et méditer. Alors, bon, oui, méditer, là, vous ne voyez pas. Donc, je traduis. Yoga, le yoga, le mot, le verbe est sous-entendu, c'est quoi? Alors là, on commence par la fin. Nirodha, l'arrêt. Alors, c'est traduit différemment. Philosophiquement, on dit parfois la cessation. La cessation, ça veut dire ça s'arrête. De quoi? Des activités. Les activités, c'est vritti. Vritti, c'est les tourbillons. Vous savez, dans l'eau, une rivière, il y a des endroits où ça fait un tourbillon. Eh bien, le mot pour décrire un tourbillon dans l'eau, c'est vritti. Et le mot pour décrire ce qui se passe dans nos têtes, c'est aussi vritti. Parce que ça tourne. Bien, le yoga, c'est l'arrêt des activités citta du mental, au sens psychologique. D'accord ? Voilà la définition classique du yoga. Le yoga, c'est l'arrêt des activités du mental. Intéressant. Vous voyez que dans cette définition, il n'est absolument pas question de posture. Les postures, ça va venir dans les moyens que Patanjali préconise pour favoriser le ralentissement de l'activité mentale et son arrêt éventuel. D'accord ? Mais ça ne fait pas partie de l'essence du yoga. Alors, on peut traduire le yoga, c'est l'arrêt du fonctionnement habituel de l'esprit. Il y a autant de traductions que de traducteurs. Alors, c'est quoi le résultat ? Eh bien, c'est le sutra suivant qui nous le dit. Tada drastu svarupe avastanam. C'est-à-dire, alors, tada, il y a établissement avastanam de la conscience drastu dans sa nature propre. Svarupe. Donc, qu'est-ce qui se passe si j'arrête les activités de mon mental ? Ça se calme, c'est tranquille, et alors, ce que je suis vraiment va pouvoir transparaître. Et je vais me rendre compte que ce que je suis vraiment est plus vaste que la conscience habituelle et limitée que j'ai de moi-même. D'accord ? C'est ça le propos du yoga. C'est le résultat recherché. Donc, j'ai traduit. Alors, la vraie nature de la conscience est mise en évidence. C'est seulement si j'arrête l'activité cérébrale ordinaire que la vraie nature de ma conscience va pouvoir m'apparaître. Bon, il y aura des étapes intermédiaires, hein, mais là, tout début du Yoga Sutra, c'est présenté d'une façon raccourcie, en quelque sorte. Alors, j'avais envie de faire un petit test pratique. Ouais, hein. Non, pas noté. Je vous propose qu'on essaye d'arrêter notre mental 3 minutes. Hein ? Donc pour ça, je vous invite à vous redresser sur votre siège. Essayez d'être... Il faut avoir le bassin basculé en avant, c'est-à-dire la petite cambrure lombaire, comme quand on est debout. Et de préférence, les deux pieds posés à plat. De façon à ce que vous sentiez que votre colonne vertébrale est érigée. Comme on a vu dans le texte de la Bhagavad Gita, il faut aligner le dos, la nuque et la tête. Rassurez-vous, hein, ça ne va pas être une méditation d'une demi-heure, 3 minutes. Mais des fois, ça suffit hein, pour atteindre le samadhi. Donc, on peut fermer les yeux ou si vous trouvez que c'est mieux de les avoir ouverts, vous pouvez les garder ouverts, mais vous les posez sur un point fixe et vous défocalisez pour que ça, vous ne soyez pas gêné par les images. Et vous prenez conscience de votre monde intérieur. Alors le monde intérieur, eh bien, c'est toutes les sensations qui sont présentes dans votre esprit, y compris les sensations auditives, puisqu'il y a un petit peu de bruit autour de nous. Mais au lieu de faire attention à ce contenu qui est le vôtre, là, sensations variées, vous faites comme si ça ne vous intéressait pas et que vous vouliez aller plus loin en vous, retourner votre attention vers votre propre arrière-fond. Alors si vous y arrivez au moins un peu, les premières fois c'est un peu déroutant parce qu'on se dit mais oui mais il n'y a rien. Derrière les sensations ou les pensées, etc. Si j'arrive à calmer tout ça, ben c'est vide. Je vais m'ennuyer si je reste à observer ça. Alors bien sûr, c'est une impression. C'est la première impression. Mais c'est un peu comme quand on rentre dans une pièce noire. On commence, on ne voit rien. Et puis petit à petit, les yeux s'apprivoisent. Alors encore quelques instants. Essayez juste de dire, est-ce que je peux suspendre mon intérêt pour les formes? Tant pis s'il y a encore des bruits ou des sensations, mais ça ne m'intéresse plus. Ce n'est pas ça que je regarde l'arrière-plan. Ok. On va en rester là. Mais c'était pour vous donner un petit goût concret de cette définition du yoga, qui n'est pas du tout un truc philosophique, enfin au sens intellectuel. C'est vraiment nous amener à sentir qu'il y a un domaine d'expérimentation possible dans cette direction. Et alors ben justement, eh bien, le résultat du test, c'est si vous avez réussi, parfois il n'y a pas besoin de longtemps, hein. On peut parfois, en l'espace de 2 ou 3 minutes, avoir une fraction de seconde, une impression de vastitude, de tranquillité. C'est ça, c'est la bonne direction. Je ne dis pas que vous avez tout découvert, mais c'est ça le principe. Alors, la vraie nature de la conscience est mise en évidence ou devient évidente. D'accord ? Et autrement, qu'est-ce qui s'est passé pour quelques-uns parmi vous, parce que la plupart, j'ai vu, vous avez réussi le test, mais quelques-uns n'ont pas réussi. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé pour les autres, ceux qui n'ont pas réussi? Ben, Patanjali nous dit dans le sutra souvent, dans le sutra suivant, il nous dit, sinon, si on n'arrive pas à désengager la conscience des formes, eh bien, la conscience se confond avec ses activités, c'est les activités du mental. Et alors, il décrit ses activités, les pensées vraies, peut-être vous avez, oui, il fait silence, mais il est déjà telle heure, à quelle heure il arrête. Voilà. Donc c'est... Ou bien des pensées erronées, de toute façon, il ne va jamais s'arrêter. Ou bien des imaginations, voilà, ce soir je fais un truc qui est quand même plus sympa, vivement que ça se termine. Ou bien des souvenirs, ah, voilà, vous êtes retrouvés, bon, c'était trop court pour qu'il y ait des souvenirs très anciens qui remontent, mais si on était resté une demi-heure, bah, certains d'entre vous seraient partis dans des rêveries, etc. Ou bien de la somnolence. Voilà. Tout ça, ce sont des phénomènes mentaux qui vont voiler la conscience profonde et que le yoga vise à neutraliser. Voilà le but. Et maintenant, on en vient aux moyens à mettre en œuvre, selon Patanjali. Pourquoi est-ce que j'ai mis ce dessin ?
Hein ? Dénoué pour les...
les énigmes. Eh bien, qu'est-ce que vous voyez sur ce dessin pour ceux qui...
Un attelage.
Et il y a combien de pattes ? Il y a 8 pattes. D'accord ? Parce qu'il y a 2 chevaux. Ouais, on le voit pas forcément bien sur l'image, mais si vous comptez les pattes, vous allez voir 1, 2, 3, 4, 5, 6, on en voit... Si, on voit 8 en regardant bien. Ouais, 7, enfin bon, on imagine bien qu'il n'y en a pas un qui est sur 3 pattes. Alors pourquoi ? Parce que c'est une très bonne analogie de ce que sont, selon Patanjali, les moyens à mettre en œuvre pour avancer dans la voie du yoga. Il faut faire bouger notre être intérieur en utilisant 8 pattes. Pattes, c'est anga, les membres. Donc quand on traduit c'est un yoga en 8 parties, c'est un peu faux parce que 8 parties, on dit je fais d'abord la première partie, puis quand j'ai fini la première partie, je fais la deuxième, et voilà, puis à la fin, je ferai la huitième dans le... très longtemps. Non, Patanjali, c'est pas ça l'idée. L'idée, c'est que si on fait du yoga au sens où Patanjali l'entend, on s'intéresse tout de suite aux 8 aspects du yoga que je vais détailler maintenant, et pas un par un. Donc voilà, hein, les membres sont au nombre de 8 et c'est pour ça que ça s'appelle Ashtanga. Et ça, c'est dans le chapitre 2, au verset 29, qu'il décrit les 8 membres et après, il rentre dans le détail. Donc les 8 moyens du yoga, donc c'est le verset 29. Bon, je ne vais pas vous le lire en sanskrit parce qu'il est un peu long, mais on va reprendre les mots un par un. Le premier mot, yama, c'est l'éthique du yoga. Pour Patanjali, on ne peut pas arriver à calmer notre esprit si on a une vie qui ne respecte pas les grands principes de l'éthique. Être bienveillant avec autrui, s'abstenir de voler, s'abstenir d'abuser d'autrui, s'abstenir d'accaparer des biens dont on n'a pas besoin. Voilà, il y a 5 règles comme ça qui forment l'éthique du yoga et qui sont des règles éthiques universelles. Il n'y a pas besoin d'être s'intéresser au yoga pour les suivre. Mais Patanjali prend quand même la peine de dire si vous n'avez pas une vie qui est moralement juste, eh bien vous n'arriverez à rien en yoga. Pourquoi ? Parce que si je vends de la drogue avant de venir au cours de yoga et que j'en revends après pour me payer, je sais pas quoi, les cours de yoga, eh bien, que je me dise, oui, la sérénité, le moi profond, c'est extraordinaire, et qu'ensuite, je sois dans des deals pas possibles, vous voyez que ça va être difficile à un moment donné de ma méditation de ne pas me dire, mais qu'est-ce que je fous avant de la drogue ? Il paraît qu'il y en a un qui est mort parce qu'il est d'overdose, c'est moi qui avais vendu la drogue, vous voyez ce genre de truc. Je prends exprès des trucs un peu extrêmes, mais c'est, voilà. Pourquoi est-ce que l'éthique est nécessaire à l'apaisement intérieur ? Le deuxième anga, c'est que pour réussir en yoga, il faut avoir une discipline personnelle. Il ne suffit pas d'avoir une vie moralement saine, il faut aussi se donner du mal. Et alors, il y a de nouveau 5 éléments à mettre en place dans sa vie personnelle. Et entre autres, il y a quelque chose qu'on appelle tapas, c'est la capacité à se donner du mal, à faire des efforts. Donc je vous signale que pour vous, en général, vous venez au yoga avec un grand plaisir, et donc ça n'est pas un effort, mais de temps en temps, peut-être, eh bien, il faut se pousser un peu, parce que il fait trop beau, ou il fait trop froid, ou voilà. Donc, être capable de s'imposer des efforts raisonnables et raisonnés, parce que sinon, si on ne se donne pas du mal, on n'arrive à rien. Un autre aspect de cette discipline personnelle, c'est avoir la curiosité de s'étudier soi-même et plus précisément d'utiliser les textes anciens comme un miroir pour se comprendre. Donc dans la perspective de Patanjali, étudier les Yoga Sutras avec quelqu'un de compétent, ça fait partie de la démarche parce qu'on va apprendre des concepts, on va avoir des outils intellectuels pour comprendre ce qu'on fait, où on va et pourquoi on le fait. Si on ne fait pas ça, si on ne se donne pas ce mal, on sera moins aidé. Bon, ainsi de suite. Je ne vais pas rentrer longtemps là-dedans, parce que je voudrais en venir un peu plus longuement à la pratique posturale, qui est donc le troisième anga, la troisième jambe de l'attelage, les postures. Donc ça existe bien chez Patanjali, rassurez-vous. Mais vous voyez que ça n'est qu'un des éléments sur les huit. Le quatrième, sur lequel je vais revenir aussi, ce sont les pratiques respiratoires, qu'on appelle pranayama en sanskrit, et qui peuvent être soit faites en même temps que les postures, c'est ce qu'on fait beaucoup dans cette école, où il y a une manière particulière de respirer pendant qu'on fait les postures, mais on peut aussi, et c'est tout un aspect du yoga, faire des exercices respiratoires à part entière, c'est-à-dire on se pose et on fait des exercices respiratoires, pranayama. Voilà, ça, c'est ce qu'on appelle la dimension externe du yoga. Externe parce que ça se voit, d'accord ? Et après, il y a les quatre membres suivants, c'est la dimension interne, qui ne se voit pas. Alors, en cinq, on a les pratiques de retournement de l'attention, pratyahara. Plus exactement, c'est retirer notre attention de nos sens. Tout à l'heure, quand je vous ai proposé de faire un tout petit instant de silence, je vous ai dit, il y a des bruits et puis il y a des sensations, mais on choisit, c'était la proposition, d'extraire notre attention. Je décide que ça ne m'intéresse pas. Donc, il y a des bruits, mais ça ne m'intéresse pas. Je retire mon attention de ce plan pour la tourner vers quelque chose de plus fin, de plus subtil en moi. Eh bien, il y a un certain nombre de pratiques de retournement de l'attention, comme ça, qui relèvent donc de ce cinquième aspect du yoga. Dans la même foulée, une fois qu'on a retiré notre attention, on peut choisir de focaliser notre attention sur un aspect de notre monde intérieur. Et ça, on appelle techniquement ça la concentration. Alors nous, quand on pense concentration, c'est se concentrer sur une tâche. Voilà, j'ai un truc méticuleux à faire, il faut que je me concentre. Bien sûr, c'est une forme de concentration que d'être très attentif à, je sais pas quoi, résoudre une équation si on est mathématicien, ou un mot croisé si on est juste... voilà. Mais cette capacité d'attention qu'on porte sur le monde extérieur, Patanjali nous dit, on peut aussi la porter sur notre monde intérieur. Par exemple, la porter sur une pensée perturbatrice. Pourquoi est-ce que je suis perturbé par cette pensée ? Je vais focaliser mon attention sur cette pensée pour essayer de comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière. Ou j'ai une perturbation émotionnelle. Je suis triste ou je suis en colère. Je vais focaliser mon attention sur cette tristesse ou sur cette colère pour essayer de comprendre qu'est-ce qui l'a produite. D'accord ? Donc là, on est dans une dimension du yoga qui est purement psychologique. J'utilise ma capacité d'attention pour éclairer mon univers psychologique intérieur. Évidemment, et ça ouvre un champ de travail sur soi extrêmement vaste et complexe. Septième aspect du yoga, la pratique ou les pratiques de méditation. En sanskrit, ça se dit dhyana. Alors pourquoi est-ce que Patanjali différencie la concentration de la méditation? Parce que l'esprit de la méditation, ce n'est pas d'éclairer un aspect ou un autre de notre psychisme pour mieux le comprendre. Ça, c'est une étape. L'esprit de la méditation, c'est de se désengager même du psychisme pour se laisser entrer en contact avec notre nature profonde. C'est ça la méditation au sens strict. Tant qu'on est dans j'éclaire un aspect ou un autre de mon monde, on est encore dans la concentration qui est tout à fait importante et utile. Mais on n'est pas encore dans le travail purement spirituel. Au sens restreint du mot, la méditation, c'est la phase dans laquelle je suis désengagé et des sensations physiques et des événements psychologiques et où je commence à me laisser animer de l'intérieur par quelque chose de plus vaste que moi. Ça s'appelle donc dhyana. Et cette pratique, elle culmine dans les moments de conscience élargie auxquels j'ai fait allusion tout au début quand je disais que certaines personnes qui sont en arrêt cardiaque, qui sont entre la vie et la mort, vivent un moment d'expansion de conscience. Eh bien, chers amis, bonne nouvelle, nous en vivons tous de temps en temps, et même sans faire de yoga, car je suis sûr que si on avait un peu de temps et que je vous demande d'y réfléchir, vous trouveriez dans votre existence un, deux ou trois souvenirs particulièrement forts où vous vous êtes senti dans un état de conscience inhabituel, beaucoup plus tranquille et posé. Peut-être que c'était devant un paysage, peut-être que c'était en écoutant une musique, peut-être que c'était dans une relation amoureuse intense. Plein de choses qui n'ont rien à voir avec le yoga. Peut-être que c'était dans une situation beaucoup plus dramatique. Un certain nombre d'entre vous, peut-être même tout le monde, ça nous arrive de temps en temps quand on est dans une situation d'urgence, il y a une espèce de déclic qui se passe à l'intérieur de nous, comme si on se dédoublait. On devient spectateur de ce qu'on doit faire et on le fait avec beaucoup, beaucoup d'efficacité, sans être affecté. Je suis le seul à avoir connu ce genre d'expérience. Je pense que vous êtes... Voilà, d'accord ? Eh bien, c'est ça que Patanjali appelle samadhi. Sauf qu'il y a les samadhis naturels, qui nous arrivent à tous, deux, trois fois dans notre vie, peut-être un peu plus ceux qui ont de la chance, mais en général, on ne sait pas, ça nous arrive, ça nous prend par surprise, et on est incapable de maintenir ce genre d'état de conscience, d'accord ? Alors que le yoga... Le samadhi du yoga, c'est prendre conscience que c'est une possibilité qui est en nous, et quand ça nous arrive, le noter, et se dire je sais ce que c'est, le yoga, ça doit m'amener à ça de temps en temps. Et ceux qui font du yoga depuis un certain temps, très probablement qu'une fois ou l'autre, vous avez connu un moment, disons, d'une qualité intérieure. Différentes. Alors après, Patanjali, dans son texte, il explique qu'il y a différents degrés de samadhi. Donc vous étiez au samadhi 1, vous n'étiez pas au samadhi 10. Mais vous étiez quand même, c'est quand même la même chose. Ça pointe vers le fait que ce dont on a parlé dans le premier texte, la Katha Upanishad, ou dans le deuxième, ce ne sont pas des croyances. C'est une expérience qui est déjà un tout petit peu la nôtre, et que le yoga se propose d'amplifier. Pourquoi ? Parce que Patanjali explique que c'est seulement ce genre d'expérience qui va nous guérir de la conviction qu'on est une entité finie et limitée. Quand on aura fait un certain nombre de fois l'expérience qu'on est plus vaste, on se dira « non, je ne peux pas me confondre » avec cette entité limitée qui a tellement de problèmes et qui n'arrive jamais au bout de ses problèmes. D'accord ? Voilà pourquoi c'est si important cet aspect du yoga. Alors, il faut que j'avance. Donc, mais rassurez-vous, on arrive bientôt à la fin. Mais je voudrais quand même, pour finir, parler un peu plus des deux aspects du yoga que vous connaissez le mieux, c'est-à-dire le travail postural et le travail respiratoire, pour voir qu'est-ce que Patanjali en dit dans son texte. Alors, en fait, quand on lit le Yoga Sutra, on est un peu déçu parce qu'il en parle en fait très peu. Voilà, c'est pas les aspects du yoga sur lesquels il y a le plus de sutras. Mais quand même, alors ça veut donc bien dire aussi, mais rappelez-vous, on est à moins de 2000 ans, là, que toutes les techniques qu'on connaît ne sont pas forcément encore développées. La variété des postures, etc. En fait, on n'en sait rien. Peut-être qu'elles existaient, mais que Patanjali a choisi de ne pas les mentionner en détail. Ou peut-être qu'elles n'existaient pas et qu'elles ont été inventées petit à petit. Voilà. Toujours est-il que ce qu'il en dit, lui, il y a deux sutras qui sont très intéressants parce qu'il définit ce qu'est une posture de yoga. Et il nous dit, la posture, elle doit être ferme, et le mot sanskrit c'est stira, en même temps qu'agréable, et le mot sanskrit c'est sukha. Donc la posture c'est stira sukha. Or, c'est contradictoire. Si c'est ferme, c'est pas agréable. Si c'est agréable, c'est pas ferme, dans notre expérience courante. Et donc, ce qui différencie une posture de yoga d'une attitude ordinaire, c'est qu'on doit réussir, dans chaque posture de yoga, à combiner ces deux dimensions, qui, a priori, sont contradictoires. C'est comme si je vous disais, la posture, ça doit être chaud et froid. Ben non, c'est soit chaud, soit froid. Enfin, encore là, on va dire que c'est tiède. Mais non, c'est... voilà. Alors, donc, ça, c'est une indication précieuse. Si dans une posture, vous êtes tendu, eh ben, ce n'est pas une posture de yoga. Si vous êtes détendu, mais sans structure... Ouais, voilà. C'est peut-être de la danse, c'est peut-être de l'expression corporelle, et ça a peut-être tout à fait sa valeur. Mais ça n'est pas une posture de yoga. La posture de yoga doit vous donner cette double perception. C'est structuré, il y a une certaine intensité, et en même temps, c'est parfaitement détendu, c'est-à-dire que tout ce qui n'est pas strictement nécessaire pour le maintien de la posture est détendu. Alors là, on est dans une posture de yoga. Et ça vous explique pourquoi il faut faire les postures de yoga plusieurs fois. Et pas seulement plusieurs fois, mais très très longtemps, tous les jours. Parce que chaque fois qu'on fait une posture de yoga, c'est une occasion nouvelle pour l'habiter avec cette double dimension. Mais là, je suis trop tendu. Là, je suis trop lâché. Voilà, je me fais plaisir. C'est plus une posture. La vraie posture, c'est plus... Alors, c'est le pied comme ceci, c'est le bras comme cela, etc. On essaye de s'approcher de la posture archétypale. Et là, on va faire l'expérience de la posture. Donc, vous voyez que ce n'est pas inintéressant ce qu'en dit Patanjali. Et alors, il dit la méthode, il rentre dans les détails. Cela s'obtient en relâchant tout effort superflu et... nous dit-il, en se reliant à l'infini. Alors là, quand on lit ça la première fois, on dit, mais qu'est-ce que ça peut vouloir dire ? Eh bien, la façon dont moi je comprends ça, c'est qu'il nous invite à situer nos postures par rapport au cosmos. Je ne suis pas juste dans ma posture à moi, mais je suis en contact avec la Terre, j'ai conscience de mes appuis, je suis en contact avec le ciel, à travers la partie de mon corps qui s'élève, et je suis conscient que je suis un intermédiaire entre le ciel et la terre et que l'énergie circule à travers moi, entre ciel et terre. D'accord ? C'est ça, se relier à l'infini, dans ma compréhension. Il y a peut-être d'autres commentateurs qui donneront une autre explication. Mais je donne moi, c'est comme ça que ça me parle, parce que ça, je peux relier ça à ma pratique. En effet... quand, dans ma pratique, je n'oublie pas de sentir les zones de mon corps qui touchent le sol, celles qui s'élèvent ou celles qui s'élargissent, et que je m'élargis, mais je m'élargis à l'infini, bien à ce moment-là, ma posture, elle prend un tout autre goût, une toute autre qualité. Et elle est, parfois, pour certains d'entre nous, une porte vers ces moments de surconscience. Ce n'est pas uniquement des expériences qu'on n'aurait qu'en méditation. La méditation, disons, c'est un moyen pour privilégier les expériences d'expansion de conscience. Mais ça peut arriver à tout moment, y compris dans une posture de yoga. Alors, nous dit Patanjali, là c'est un sutra qui est un peu plus difficile auquel c'est un peu plus difficile de donner un sens concret. Alors on se retrouve libre, nous dit Patanjali, des couples d'opposés. C'est-à-dire que dans la posture, on ne l'interprète plus en termes de c'est agréable ou c'est désagréable, c'est confortable ou c'est inconfortable, je suis dans le bien-être ou je suis dans le mal-être. Non, on bascule dans quelque chose qui a une autre dimension, qui dépasse les jugements et les qualifications qu'on pose habituellement sur notre expérience. Et donc, c'est pour ça que la posture en elle-même peut être l'occasion d'un moment, d'une révélation en quelque sorte, d'une révélation de notre propre grandeur. Voilà ce qu'il nous dit sur le travail postural. Vite fait, le travail respiratoire. Alors là, il consacre environ 5 sutras à décrire le travail respiratoire. Donc, il semble qu'à l'époque, il y a 2600 ans, 2200, la dimension respiratoire prenait déjà bien de l'importance. Alors, voilà, par exemple, le premier sutra où il en parle, le sutra 249. Quand la posture est bien établie, il faut pratiquer le pranayama, qui consiste à réguler la respiration. Bon, là, j'ai mis plusieurs sutras d'un coup. Bon, c'est pas grave. Les phases de la respiration sont l'expire, l'inspire et la suspension. En portant son attention sur l'endroit où se place le souffle dans le corps, donc j'essaye de sentir par où ça respire en moi, sur l'amplitude de ma respiration, sur son rythme, on obtient une respiration allongée, ou on peut traduire aussi, on peut allonger la respiration et la rendre plus subtile. Donc, le but est double. Il faut ralentir et allonger la respiration et la rendre plus subtile. Ultérieurement, nous dit Patanjali, la pratique se focalise sur les moments de suspension du souffle, là où la nécessité d'inspirer et d'expirer est dépassée. Alors, tous ceux qui pratiquent la méditation un peu régulièrement, ça va leur parler, parce qu'il y a certaines fois, en méditation, quand on arrive à une certaine qualité d'intériorisation, où on a l'impression de ne plus respirer. Non pas parce qu'on étouffe, mais c'est comme si on n'avait presque plus besoin de respirer. Alors, on continue à respirer, mais ça devient tellement, tellement subtil qu'on a l'impression que ça s'arrête. Eh bien, quand on fait cette expérience en méditation, en règle générale, c'est qu'on est dans un état d'intériorisation assez profond et qu'il y a de bonnes chances pour qu'il y ait des choses qui... l'arrière-plan commence à émerger en nous. Donc, et c'est pour ça que Patanjali termine là, dans le dernier sutra, le 52, parce que je n'ai pas mis le 53. C'est alors que ce qui cachait la lumière de la conscience se dissipe. Donc, quand la respiration s'amenuise, l'agitation mentale diminue aussi. Donc, le voile qui cache notre profondeur se lève. Donc, ça, c'est la façon dont Patanjali parle du travail respiratoire. Donc, on voit aussi que ce travail respiratoire, ce n'est pas juste parce que c'est hygiénique de faire des respirations profondes. C'est vrai aussi, hein, c'est très bon pour la santé. Mais c'est tout est orienté vers la même chose, vers la découverte de notre propre profondeur. Voilà, j'en ai fini. C'est juste un petit résumé. Hein. Donc, par rapport à mes 3 questions de départ, voilà, je suis un ancien prof de philo, donc vous voyez, je suis carré. Hein. On démarre avec un thème et puis on va jusqu'où. Donc, la première question, c'était l'origine du yoga. Et à travers ces 3 textes, il y a unanimité. C'est un plan de la réalité qui est plus vaste que notre plan à nous. Le yoga n'est pas une invention du mental des humains. Le mental, le yoga est quelque chose qui a été reçu par la profondeur de nous-mêmes. Alors, on n'est pas obligé de personnifier, on n'est pas obligé de dire que c'est Dieu qui nous l'a donné, mais c'est l'intelligence de la vie, en quelque sorte, qui a fait en sorte qu'il y ait des outils à notre disposition pour sortir de l'aspect insatisfaisant de la condition humaine. Alors, bon, si on avait du temps, on pourrait voir qu'il y a une espèce d'évolution entre ces trois textes. Le premier dit que c'est un ange qui a livré le yoga. Le deuxième dit que c'est Dieu, mais Dieu personnalisé, Vishnu incarné en Krishna. Puis le troisième dit que c'est Ishvara. Voilà, c'est... Et puis il y a encore un étage au-dessus que certains connaissent, hein, le Vedanta vous dit qu'il n'y a aucune représentation. Bon, mais on ne va pas rentrer là-dedans ce soir. Voilà, juste pour vous, l'intérêt de ça, c'est de, d'un point de vue concret, c'est de, d'aborder notre pratique dans un esprit, de mettre un peu de sacré dans notre pratique. Quand on fait du yoga, ce n'est pas comme si on faisait du ping-pong. Voilà, donc on aborde la pratique dans un certain esprit. Alors, bah, vous savez, dans certains cours de yoga, on récite un mantra. Bon, c'est une façon de montrer qu'on veut sacraliser la chose, mais ce n'est pas nécessaire. Quand on ne comprend pas ce qu'on raconte, ce n'est pas toujours très porteur. Voilà. Mais il y a quelque chose de... Voilà. Et aussi, on se relie à toute la filiation qui fait que le yoga est venu jusqu'à nous. Parce que, puisque c'est aucun... un être humain qui l'a inventé, et ben et voilà. Donc il y a cette dimension-là qui est tout à fait heureuse, de mon point de vue, dans notre pratique. Bon, ben ici, on voit que dans le texte de Patanjali, c'est là où le but du yoga est défini en des termes plus techniques, et donc beaucoup plus proche de ce que l'on peut faire, hein, puisqu'il s'agit de stopper le mental pour faire l'expérience directe de notre vraie nature, que j'ai marqué, qui est infinie et bienheureuse, mais à nous de vérifier, hein, parce que c'est ça l'intérêt, c'est que vous n'avez pas du tout à croire que ça existe. Le yoga vous dit, il y a des outils, mettez-les en œuvre et vous allez voir ce que vous allez trouver. Si vous trouvez la même chose que ce que les yogis trouvent depuis 2500 ans, ben vous direz, ah oui, ils avaient raison. Hein. Si vous trouvez autre chose, vous direz, mais il faut brûler tout ça, ça n'a aucun intérêt. C'est pas ça. Quand on fait vraiment une introspection, on s'aperçoit qu'on est des êtres, je sais pas quoi, maléfiques, fondamentalement vicieux. Et voilà, je sais pas. Mais les yogis disent non. Si vous allez au fond de vous, c'est pas ça que vous trouverez. Donc, à nous de vérifier. Et puis les moyens à mettre en œuvre, on a vu donc, c'est dans le texte de Patanjali que on voit le plus l'apparition du travail psychocorporel, mais c'est dans des textes plus tardifs, et en particulier à partir du Moyen-Âge, qu'il va y avoir des descriptions détaillées des postures. D'accord ? Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il ne les pratiquait pas, mais ça veut dire que c'était moins important à leurs yeux. Voilà. Donc, ouf ! Pour vous. Donc, Luc l'a dit, j'interviens donc une fois par mois, là, désormais, depuis deux ou trois ans, trois ou quatre, c'est la quatrième année, dans ce que j'ai appelé un atelier sagesse et méditation. Donc, une fois par mois, je fais une petite causerie plus courte et on fait une méditation plus longue. Voilà. Hein? Et actuellement, on est justement dans l'étude détaillée du Yoga Sutra. Et donc, rendez-vous lundi soir avec la petite équipe, là. On ne va pas avoir fini cette année, hein, et donc l'année prochaine, on recommence l'étude des Yoga Sutras. Et donc, si ça vous intéresse, vous pourrez vous inscrire au cycle de l'année prochaine. Donc, c'est 8 soirées sur l'année. Voilà. Et puis, il y a 2 ans, on avait fait les Upanishads. Donc, on a fait les Upanishads, les Yoga Sutras, là, ça va nous prendre 2 ans. Ben après, si je suis toujours vivant et si l'arrêt veut toujours de moi, eh ben, ça pourrait être la Bhagavad Gita qui serait au programme. Donc, oui, il y a de la matière. Je ne sais pas si je tiendrai ou s'il y aura un public. Mais oui, il y aurait de la matière. Voilà ce que j'avais prévu de vous dire.